qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et finances où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Toujours sur ce thème de Félix Leclerc, un des grands auteurs-compositeurs québécois. Ben, aujourd'hui, débute en ce 22, oui, 20 janvier, comme tel, 2026. Cette édition est bien remplie aujourd'hui, et pour la première demi-heure, elle devient aussi une collaboratrice appréciée, Annabelle Berthiaume. Bonjour, Annabelle.
Bonjour, Alain, ça va bien?
Ça va bien, toujours bien. Hein? Et un invité qui, aujourd'hui, on va parler de beaux événements qui s'en viennent, Ousmane Thiam. Bonjour, Ousmane.
Bonjour, bonjour, Alain. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. J'ai pris un engagement, et je ne deviendrai pas politicien parce que je la tiens, de parler de... Parce que là, on parlait justement des revendications de notre ami Félix Leclerc, mais aussi de reconnaître le territoire où on est présentement, que nous sommes sur des terres non cédées, le Nidakana, et sur les territoires de la nation Abénaki, de reconnaître ça comme tel, parce que, justement, on va en parler beaucoup du colonialisme, justement, qui s'est produit avec les peuples autochtones, puis qui se produit aussi, évidemment, un peu partout. Fait que voilà, donc, chaque émission, comme tel, c'est... Il paraît que ça fâche PSPP. Il n'aime pas ça entendre ça. Ça fait plaisir.
Ça vaut la peine de le répéter.
C'est ça! Alors, bienvenue, donc. Puis, justement, tout à l'heure, j'écoutais l'annonce du Cochocho qui parlait de livres. Et, justement, j'ai devant moi deux auteurs et auteurs d'un livre que j'aimerais peut-être que vous nous parliez avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui.
Oui, bien, je vais commencer, Ousmane, tu me compléteras si tu veux. En fait, on n'a pas écrit un livre, mais on a écrit un petit article là, pour faire connaître le travail d'Awa Thiam, qui est une anthropologue sénégalaise, une militante féministe aussi, qui a écrit un livre en 78, puis qui a été réédité l'année passée. Et son livre a été... on n'en a pas entendu parler du tout au Québec. Pourtant, c'est un livre qui a eu une forte résonance, autant en Afrique qu'en France.
Ouais.
Donc, l'année passée, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on avait organisé un événement hommage à Awa Thiam parce qu'on trouvait que son livre était un peu fondateur du féminisme africain, en donnant la parole aux femmes de différents pays d'Afrique de l'Ouest principalement, des femmes qui nous parlent de violence sexuelle, d'excision, de mariage forcé... Et en donnant la parole à ces femmes-là, elle décide un peu de théoriser la condition des femmes, ce qui se passe à partir de leur expérience. Elle s'inspire de Karl Marx, d'Angela Davis, de Frantz Fanon, des militants et des militantes qui sont importantes dans les contributions théoriques, mais elle développe vraiment une pensée autonome féministe africaine qui critique à la fois, en fait, le féminisme blanc.
Oui.
Les idées, en fait, qui sont un peu déconnectées des réalités que les femmes lui partagent. Mais elle va critiquer aussi ses camarades qui ont lutté pour la décolonisation parce qu'elle constate aussi que c'est les femmes, il y a très peu de choses qui ont changé au quotidien. Donc, c'est à partir de ces voix-là, de femmes principalement, mais aussi quelques hommes, qu'elle va décider de donner, et là, c'est le titre de son livre, c'est « La parole aux négresses », donc de redonner, en fait, une voix à ces femmes qui sont souvent réduites au silence, et pour aborder toutes sortes de thèmes, mariage forcé, polygamie, blanchiment de la peau, donc qui sont des conditions qui ne sont pas nécessairement les mêmes que des femmes noires vont vivre aux États-Unis ou au Canada, par exemple, et pour vraiment développer cette pensée singulière, mais aussi pour développer les luttes, les luttes féministes africaines. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on trouvait que c'était important d'amplifier la voix d'Awatiam, d'amplifier la voix de ces paroles qui sont rapportées dans le livre d'Awatiam, parce que ça ouvre tout une autre réflexion sur la condition des femmes qui est pas portée par le milieu universitaire, qui est pas portée par le monde académique, mais qui est vraiment à partir des pratiques quotidiennes qu'on retrouve de l'expérience des femmes qui sont rapportées. Donc, pour nous, c'était un livre qui méritait d'être mieux connu, à la fois les idées et la pensée. Donc, le petit texte qu'on a publié dans la revue Possible et dans la revue Ouvrage, là, c'était un peu pour présenter sa pensée, puis aussi sa contribution révolutionnaire, parce que c'est comme ça qu'elle se présente à Awatiam. C'est une parole, une prise de parole révolutionnaire. Donc, ça fait un peu le tour de l'article.
Un lien de parenté avec toi, Ousmane?
Non, moi, j'ai pas de lien de parenté.
Non, parce qu'il y a... Normalement, c'est comme roi, là, mais il peut avoir plus ça, puis c'est pour être parents ensemble, là.
Non, j'ai pas de lien de parenté avec Awatiam. Mais ce qui est important à retenir, en fait, de l'œuvre d'Awatiam, c'est que quand elle a écrit ce livre, cet essai en 1974, il n'a jamais été réédité. Ça, c'était important quand même à souligner. Il était comme une espèce de PDF qu'on retrouvait dans les universités en Europe. Et ça a disparu. Donc, c'est la première fois qu'il y a eu une réédition en 2025. Donc, ça a pris à peu près 40 ans avant qu'on revienne, en fait, sur un écrit qui était assez novateur et principal sur la question des femmes 10 ans après les indépendances en Afrique de l'Ouest.
Alors, quand même, donc, c'est une belle... Et Ouvrage, c'est une revue que vous travaillez beaucoup. Je pense que vous publiez beaucoup dans cette revue-là.
Bien, en fait, moi, je m'implique sur le comité éditorial de la revue Ouvrage. Donc, on est des militantes et des militants qui se sont rencontrés, en fait, dans le mouvement étudiant, dans le cadre de la grève des stages. Et on accueille, en fait, toutes sortes de collaborations. C'est toujours possible de soumettre un texte à Ouvrage. C'est une plateforme qui s'intéresse beaucoup aux questions féministes, aux questions de la reproduction sociale, aux questions de frontières, critiques du nationalisme. Donc, c'est une revue qui est en ligne, disponible gratuitement, revueouvrage.org. Et donc, c'est une contribution que Ousmane et moi, on a proposée là, pour la revue. On organise aussi des événements pour faire connaître, en fait, les idées, là, parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir une plateforme pour... animer des, tu sais, pour s'approprier des textes, pour mieux les comprendre, mieux les décortiquer ensemble, puis pour qu'ils servent, en fait, les luttes puis les mouvements sociaux en cours.
Ben, c'est vraiment une belle implication, comme telle. Et justement, aujourd'hui, on est là pour parler, bien sûr, entre autres, le OFF, O-F-F, du mois des Noirs, de l'histoire des Noirs, pardon. Et justement, Ousmane nous a parlé de c'est quoi ce fameux OFF, du mois de l'histoire des Noirs.
Le OFF du mois des Noirs, en fait, c'est pour proposer une espèce de lieu culturel et politique pour pouvoir parler de nos souffrances en tant que Noirs ou en tant qu'étrangers au Québec et au Canada de manière assez libre. C'est-à-dire pouvoir réfléchir ensemble, se donner un espace où on peut parler librement sans que les institutions s'en mêlent et qu'on puisse, à partir de cette parole libérée, créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire dans le quotidien, ce qu'on vit, qu'est-ce qui s'est passé avant dans le Québec sur la condition des Noirs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment on peut l'articuler dans le présent. Moi, je trouvais ça important depuis quelques années. Je trouve que le mois de l'histoire des Noirs est un mois figé, souvent géré par les institutions ou même repris par les institutions. Donc, le OFF, on veut sortir de cette espèce d'endroit où qu'on nous a classé.
Ben, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais justement des Autochtones puis tout ça. Souvent, c'est le problème. Souvent, c'est d'autres personnes qui ont absolument pas rapport là-dedans, qui décident justement d'encadrer ça, un peu comme les peuples autochtones, je pense aux Hurons, que c'était pas leur nom, pas du tout, tu sais, qui ont été encadrés, ont fait la même chose, et je trouve ça intéressant, justement, que ça soit pris en charge par les gens qui vivent la situation.
Ben tout à fait. Hein. Je veux dire, je trouve ça important. Je trouve ça aussi vivant. Hein, c'est-à-dire de donner la parole à des personnes qu'on silencie souvent, ou des personnes qu'on ne prend pas en considération. Et le off n'est pas là pour remplacer quelque chose. Le off, il est là de manière autonome et pour vivre et survivre aussi. Hein, c'est-à-dire au temps réel et proposer une autre alternative à ce qui existe déjà.
Alors, c'est pour ça que justement, c'est quand on pose la question pourquoi ça arrive, ben, je pense que tu réponds bien parce que c'est de sortir justement là, de ce que pourraient, d'autres personnes pourraient essayer de dire, alors que finalement, que ce soit dit par les personnes qui vivent la problématique ou la situation.
Tout à fait.
Oui,
ben, peut-être pour rajouter aussi la question de la prise de parole. Quand on est dans des événements plus officiels, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une forme de dépolitisation aussi des discours des personnes qui sont premières concernées, des personnes noires, des personnes étrangères. On parlait des femmes tout à l'heure avec la parole aux négresses, mais de pouvoir se donner un espace pour parler de racisme, pour parler de discrimination, ça permet de ne pas écarter aussi une partie de la condition de vie des personnes noires, des personnes immigrantes, puis il y a une série d'événements autour du mois de l'histoire des Noirs qui sont dans plusieurs municipalités au Québec, des municipalités qui sont aussi les financeurs des violences policières, des évictions, de la crise du logement qui affecte les familles nombreuses. Donc, ça permet de parler de ces questions-là, en fait, de se donner un cadre qui appartient aux gens qui vivent, là.
Effectivement, parce qu'on parle de racisme, on parle de dernièrement ce qui est arrivé à Longueuil il n'y a pas si longtemps.
Avec le jeune Oran, oui.
Bon, puis qui est enterré quelque part en trois, quatre feuilles de papier, là, comme tel. Fait que c'est vraiment... t'es au Québec depuis combien d'années?
Moi, je suis au Québec depuis 1997, donc oui, je viens d'Afrique de l'Ouest, mais je me considère tout à fait plus québécois que guinéen. Mais la question noire traverse mon histoire, oui. Traverse mon corps, et je trouve ça intéressant de le rappeler. Je trouve ça intéressant qu'on puisse en parler de la question du racisme au Québec et du Canada et au Canada, et de sa place prépondérante. Hein, dans les luttes et comment les institutions aussi font en sorte pour l'étouffer. Donc, je pense que c'est en se rappelant de qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire avant même moi ou avant même dans les luttes, pour qu'on puisse réfléchir aujourd'hui pour comment articuler la question du racisme à la question nationale, à la question du nationalisme et à la question même de l'intégration dans une société québécoise. Donc, c'est pour ça que les activités qu'on propose, autant on parle de mémoire, mais on va aussi parler d'aujourd'hui ce qu'on peut faire, c'est-à-dire à partir de la mémoire, à partir de l'histoire, à partir des discussions, parler de nous et voir ce qui est possible, en fait, de créer.
Effectivement. Puis le racisme qui revient, évidemment, malheureusement, comme tel. D'ailleurs, demain, on se réunit pour préparer le 7 février l'abolition du programme d'expérience québécoise. Sûrement que aussi, peut-être des gens aussi là, autour de toi vivent cette réalité-là, ou des gens que tu rencontres aussi, Annabelle, là.
Absolument, aux études, oui.
Et c'est ça, fait que donc, il y a des programmes qui sont coupés là, comme tel. Puis hier, il y avait justement la journée du drapeau, il y avait nos députés de la CAQ qui disaient comment c'est important, les personnes immigrantes, tout ça, mais leur politique, c'est que des discours, hein? De toute façon, d'un pays à l'autre, c'est le même, là, les politiciens et politiciennes, tout ça. Puis ce que se fait aux États-Unis, puis ce qu'il fait ici. Fait qu'évidemment, je pense que ce mois-là, qui est le mois de février, est important comme tel là, de souligner. Puis il y a des activités qui, justement, vont se dérouler pendant toute cette période-là.
Oui, en fait, on a quand même une programmation chargée cette année. Donc, Tout commence avec le 4 février, une activité à la petite boîte noire. Vous êtes tous et toutes invités. Il y a une projection, ça va commencer à 5 heures. On va regarder ensemble le film documentaire True North. Il faut savoir que le film n'est pas encore sorti. En fait, il est sorti cet été au Festival international de films de Toronto. C'est un film qui parle de la question du racisme puis des violences, des inégalités raciales au Canada. Puis qui revient en particulier, en fait, sur un événement à l'hiver 69 à l'Université Concordia. Je ne sais pas, Ousmane, veux-tu en parler de l'affaire Sir George Williams?
L'affaire Sir George Williams se passe au mois de février à l'actuelle Université Concordia où il y avait beaucoup de Caribéens qui allaient étudier là et dont un professeur de chimie. Faisait couler beaucoup d'étudiants noirs de manière vraiment frontale. Donc, il y a eu une plainte et l'université n'a rien fait. Il y a eu des manifestations, il y a eu une occupation qui a viré à l'émeute et il y a eu assez de violence. Et à partir de là, c'était le début, en fait, de la lutte du mouvement noir au Québec, qui vivait sa révolution tranquille. Donc, le film, un peu, repasse à travers cet événement principal, l'éveil, en fait, des Noirs dans les années 60 au Québec.
Donc, on va avoir la chance, fait, de regarder ensemble le documentaire. Puis après, il y a un des militants qui était à cette occupation-là.
Et là, on parle de quelle année que c'est arrivé?
En 69.
OK.
Ouais.
Et donc, c'était pas au monde, mais oui.
Pas encore, non. Pas encore au monde.
Mais il reste... Ça démontrait quand même, là, on est dans une université, là.
Oui.
Donc, un professeur serait supposé être un petit peu plus...
Exactement. Puis c'est une histoire qu'on on a tendance à oublier quand on parle de l'histoire du mouvement étudiant ou l'histoire des luttes sociales au Québec, là. Pourtant, c'est un moment particulier, puis à se rappeler, en fait, là, pour mieux comprendre les mouvements sociaux. Donc, il y a un militant, Philippe Fessémé, qui a participé à cette occupation-là, qui va être avec nous, donc qui va pouvoir discuter avec Ousmane là, sur cet événement. Donc, on va avoir des bouchées. Le film est bilingue, il y a des sous-titres en français et en anglais, c'est gratuit. Contribution volontaire, mais évidemment, personne ne va être refusé à la porte. Okay. Donc ça, c'est le 4 février à 5 heures à la petite boîte noire.
Oui.
La semaine suivante...
Oui, on lâche pas.
On lâche pas. La semaine suivante, on va avoir une discussion à la librairie Appalaches. On vous attend à 5h30.
Librairie, d'ailleurs, qui accueille souvent, justement, des gens qui ont des messages de gauche comme tel, là.
Oui, puis, en fait, ça fait quelques fois qu'on fait des collaborations là, pour des événements. C'est juste en face de CFLX, c'est super. Donc, là, on va venir, on va discuter ensemble du livre « Nègre noir, nègre blanc, race, sexe et politique dans les années 60 à Montréal ». Donc, c'est un livre qui va, qu'on a un peu décortiqué, mais qui va aussi nous permettre d'amorcer une réflexion autour de la question des personnes noires. Il va y avoir une étudiante à la maîtrise en histoire, Adia Giddens, qui a travaillé beaucoup aussi sur la lutte des travailleuses domestiques dans les années 70, des travailleuses domestiques qui sont beaucoup... qui viennent beaucoup des Caraïbes, donc des femmes noires qui s'organisent dans les années 70 pour défendre à la fois la fin des discriminations raciales, mais aussi des meilleures conditions de travail. Donc, on va parler du livre, mais aussi élargir, en fait, là, pour élargir à la période des années 60-70 sur les réflexions autour du mouvement antiraciste à Montréal. L'événement est bilingue. Il va y avoir une traduction simultanée de l'anglais vers le français.
OK.
Un autre événement gratuit et ouvert à tout le monde.
Hey, super! Un beau mois, hein?
Ouais. Donc ça, c'est le 13 février à 5h30.
C'est un vendredi.
Exactement.
Mais il n'est pas malchanceux.
Non, ça va être une belle soirée, promis. Je continue?
Ben oui!
OK. Donc la troisième semaine... Le 19 février, à 5h30, on organise une conférence autour de la colonialité des corps d'Université de la mémoire. C'est un bien long titre, en fait, mais pour parler, en fait, il va y avoir trois interventions autour de la question des corps noirs, des corps étrangers, puis aussi le rôle de l'université comme un lieu d'effacement de la mémoire. Donc, il va y avoir Florian Bobin, qui est candidat au doctorat en histoire à l'Université.
Je ne savais pas qu'il soit candidat.
Non, non, il n'y a pas de politicien à cet événement.
Ah, OK. Je du vrai monde.
Il va y avoir le SDHP Sherbrooke, le collectif qui défend la justice, les droits fondamentaux pour le peuple palestinien, qui va parler de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, puis les solidarités avec le peuple palestinien. Oui. Puis il va y avoir Dimitri Mbamba, qui parle de la lutte antiraciste, puis de la question de la reprise des politiques d'équité, diversité, inclusion là, dans les universités pour effacer, en fait, les discours sur le racisme dans ces espaces qui sont très violents quand même.
Oui, oui. Ça se déroule à quel endroit, ça?
Donc ça va avoir lieu à l'Université de Sherbrooke. C'est le jeudi à 5h30.
À quel endroit dans le pavillon?
C'est le pavillon de la vie étudiante. On est au A5, dans le sous-sol. Il va y avoir des flèches, là, si vous arrivez par la Faculté des lettres et sciences humaines. Okay. C'est le local qui est juste à côté du stationnement. Il y a des divans. Vous allez être chaudement accueillis. Dernier événement?
Oui.
Donc, le dernier événement, on avait envie, là, comme Ousmane disait, qu'on passe de la mémoire à l'action. Donc, le dernier événement, c'est une assemblée politique. On vous invite, en fait, à venir discuter du racisme à Sherbrooke. L'activité va avoir lieu au 187 rue Laurier,
oui.
Dans l'après-midi. Donc, c'est à la salle Alphonse Desjardins à 1h30. C'est le samedi 28 février. Et là, l'idée, c'est de se rencontrer, de discuter à la fois de ce qu'on vit, mais aussi ce qu'on pourrait peut-être faire ensemble. Donc, c'est une tentative, c'est une mise à l'essai. On va voir qu'est-ce qui se produit à ce moment-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir cogiter ensemble, discuter de ce qui est vécu, discuter de ce qui est à venir, puis de voir aussi c'est quoi les forces vives là, à Sherbrooke là, qui s'intéressent à la question... du racisme.
Alors vraiment, un beau mois de février.
Oui, bien, on arrive là au 28, fait qu'on va avoir fait le tour du mois, là.
Moi, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin dans le mois de février cette année, du moins. Ouais. Comme tel. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'impliquer, Annabelle, dans ce mouvement-là?
Bien, en fait...
Parce que je sais que tu es déjà pas mal impliquée, puis tu es une personne très, très engagée, puis aussi qui inspire beaucoup aussi. Tu es une femme qui inspire les gens aussi, là.
Mon Dieu, là, tu vas me faire rougir, Alain.
Bon, on ne te voit pas en radio.
Ben moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ces activités-là, c'est pouvoir passer toujours du « je » au « nous », en fait, oui. de pouvoir passer d'histoire singulière à un récit collectif, un récit qui efface pas les différences, mais qui les prend en compte, qui les célèbre, qui les... C'est qu'il y a des tensions. Je pense que pour faire de la politique, il faut accepter aussi qu'il y a des fois, il y a des contradictions. Des fois, on se trompe. Des fois, on vit des échecs. Puis des fois, on gagne. Donc, de faire animer une vie politique, culturelle, mais aussi critique à Sherbrooke, où j'habite maintenant, là, pour moi, c'était important là, pour pouvoir rencontrer des gens, mais pas dans un cadre complaisant, là, dans un cadre de collaboration politique, intellectuelle, qui nous rassemble, en fait, pour pouvoir changer les choses.
Et Ousmane, justement, toi, de rencontrer des gens comme Annabelle ou d'autres qui s'impliquent aussi, c'est vraiment intéressant aussi, là.
Ben oui, tout à fait. Et j'aimerais clore quand même j'aimerais vous lire une espèce de texte qu'on a écrit, qui résume un peu l'idée de ce qu'est un offre et de qu'est-ce qu'on vous propose. Et ça clôturerait un peu l'émission avec vous. Et c'est très gentil de nous avoir invités.
Ben, ça fait plaisir. De toute façon, mon émission est là pour le vrai monde. Là. Je ne reçois plus de personnes qui viennent miauler, qui vont changer des choses.
Parfait.
J'ai des gens qui mordent.
Donc, sans plus tarder, j'y vais. Il y a toujours un off, un arrêt, un bris. Le off, c'est ce qui déborde, ce qui refuse les cadres, les vitrines polies, les récits prémâchés. Février revient. On parle d'histoire des Noirs, mais ici, nous ne ferons pas semblant. Nous ne réduirons pas nos vies à un thème, ni nos luttes à un mois. Nous brisons le temps figé, nous ouvrons les fenêtres, là où les portes restent closes, là où l'invisible s'entasse, poussé dans les marges par l'indifférence. Le off n'est pas un contre-événement, ce n'est pas une alternative, c'est un souffle, un refus, un rappel que ceux qui échappent au circuit officiel existent à force, à droit, à mémoire. Ce sont les voix discrètes, les voix tenaces, celles qu'on écoute rarement, celles qu'on caricature, celles qu'on voudrait dociles, mais qui se lèvent ici, maintenant. Brut, vivant, sans vernis. Car il manque d'espace critique à Sherbrooke, ailleurs. La ville se referme, les discussions s'éteignent, on se replie, on se tait, on travaille, on survit. Et le racisme, lui, s'installe. Routine, décor, norme. Dans ce paysage où le silence règne, où la friction dérange, où la pensée fait peur, nous voulons fissurer, faire craquer l'habitude, faire trembler le confort. Nous revenons donc à la base, à nos voix, à nos colères, à nos mémoires, à cette fenêtre ouverte par où l'air circule encore, par où les histoires passent quand tout le reste se ferme. Février, nous y entrons avec quatre gestes, quatre éclats, quatre rencontres qui ouvrent, dérangent, réveillent. Regarder, comprendre, lire, construire. Bienvenue au off, là où ce qui devrait rester en marge reprend la place qu'on lui a refusée. Ici, on ouvre, on écoute, on parle, on agit. Ici, le mois de février respire enfin. Donc, bienvenue au off et on a hâte de vous recevoir au mois de février.
Et d'ailleurs, toutes ces activités-là, on les retrouve possiblement aussi sur... sur Facebook ou les réseaux sociaux comme
ça. Oui, exactement. Vous avez juste à taper « Off, mois de l'histoire des Noirs à Sherbrooke ». Vous allez trouver l'événement. Vous pouvez aussi le retrouver sur la page d'ouvrage, la page Facebook ou Instagram. Toutes les infos avec les dates et les lieux que j'ai nommés sont là. Vous pouvez regarder aussi dans la ville. On va continuer l'affichage. Là, donc, soyez attentifs et attentives. Vous allez nous voir au mois de février.
Alors, merci de ta collaboration régulière aussi, Annabelle, c'est un grand plaisir. Ousmane, c'est un grand plaisir.
Merci.
Le micro est toujours là pour vous comme tel. La semaine passée, il y avait le groupe du Cheap à m'emmener. Justement, on parle de la droite, on parle de Mario Dumont. Il y avait une petite chanson pour Mario Dumont qui avait été faite. Je pense pas qu'il aille avoir vos activités. Mais moi, sauf le 4 où je fais du bénévolat pour l'association, les autres activités, je les ai mis à mon agenda. Et j'invite les gens aussi à le faire parce que vous êtes des personnes vraiment engagées et aussi inspirantes. Merci infiniment. Puis on va faire un petit clin d'œil à Mario Dumont. Et on revient pour la deuxième demi-heure aussi avec d'autres personnes très engagées dans le milieu communautaire.
Merci.
Merci.
Les blaireaux, on vote pour Mario, Mario Day, U-C-O-N-Dumont! Si j'étais un morpion, j'aurais ma maison dans les pantalons de Mario Dumont. Si j'étais un pou, j'aurais mon igloo sur la caboche du député de Rivière-du-Loup. Mais comme je ne suis qu'un vulgaire trou de cul, je dois me contenter d'un candidat de l'ADQ. Ça prend à peu près pas de qualification pour faire partie de l'équipe de Mario Dumont. Aucune compétence précise n'est requise, sinon que de savoir dire oui au chef du parti. De la bolle de l'école au sniffeux de colle, tout le monde peut danser le twist et ça des kiss. Mario, Mario, tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau, tu es mal barré, vraiment tu n'as rien pour toi, Mario. Tu n'as pas la cote des intentions de vote, tu n'as même pas de groupie pour tirer ta botte, tu n'as pas de pot de vin pour acheter l'électorat, tu n'as pas beaucoup de moyens sauf parmi tes candidats. Hier au soir j'ai fait de l'acide, j'étais loin d'être lucide, je croyais que j'étais un poteau de l'hydro et qu'on plantait à coups de marteau à travers ma peau un des écriteaux électoraux de Mario. Quel triste scénario pour un piteux poteau. Des bourreaux à la retraite aux anciens nazis, Mario ne refuse personne dans son parti. Tu rêves d'avoir ta face sur tous les poteaux, tu veux qu'on parle de toi dans les journaux locaux. Tu n'es pas drôle, tu n'es pas beau, tu es tout désigné pour l'équipe de Mario. dans longtemps d'ici qu'on aura plus de déficit. Quand Bouchard sera mort et que j'en restera pas fort, il y aura encore toi, toi Mario. On n'est pas à veille de plus être ta face une autre poteau. On est cul, oh yeah. On est cul, tout le monde ensemble. On est cul, alright. On est cul, tu n'es pas drôle. Tu n'es pas beau. Ave Mario.
Il est midi
29 minutes.
Ici Steve Bergeron. Vous vous êtes ennuyé de l'actualité générale à votre radio communautaire? Vous trouvez qu'on ne parle pas assez de certains sujets ou de certains coins de votre belle région? Alors soyez au rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis à 8h pour nos toutes nouvelles capsules info CFLX. Pour vous, nous allons nous attarder sur les nouvelles qui ne font pas souvent les manchettes, mais qui ont quand même des impacts dans votre communauté. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer, les lundis, mercredis et vendredis à 8h, Capsule Info, CFLX.
Oui, on veut des légendes. Les légendes du country au Québec, ces artistes ont ouvert la route aux générations futures. Une émission pas pire pantoute animée par un vieux cow-boy Alain Roy, les samedis de 10h à midi sur le 95.5 FM, aussi sur le site internet de CFLX où se retrouve l'émission en rediffusion. Commençons bien le samedi avec les légendes du country au Québec.
Todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, escuche su programa Calor Latino. Monose César Gómez, yo vos invito a escuchar la emisión Calor Latino hasta las 8 de la noche. El fin de semana comienza con el programa Calor Latino, a bailar la salsa.
Siento una voz que me dice...
Pas pire pantoute.
La radio communautaire de l'Estrie.
CFLX 95.5 FM.
Oui, deuxième demi-heure de cette édition, bien sûr, du 22 janvier 2026. Oui, déjà, une année bien remplie. Et deuxième demi-heure aussi avec des personnes aussi engagées et aussi inspirantes comme telles. Alors, du milieu communautaire avec nous, bien sûr, Nelly Kwan Arsenault. Bonjour, Nelly.
Bonjour.
Alors, demain, c'est pas Radio-Canada. Là, cette semaine, je t'ai vu à Radio-Canada. Je lui ai dit, elle va peut-être trouver ça bien ordinaire de venir avec moi.
Non, non, non. J'aime toujours autant ça.
OK. Et puis aussi, bien sûr, Rosalie Dupont de la table d'action contre l'appauvrissement en Estrie.
Oui, bonjour, Alain.
C'est quand tu as fini de ça, tu prends une pause, tu fais
oui, exact.
un peu de musique. Et bien sûr, Nelly d'Illusion Emploi. Peut-être rappeler aux gens un petit peu... Ce que font ces merveilleux organismes, Nelly?
Oui, Illusion Emploi, on est un organisme en défense des droits des travailleuses et des travailleurs non syndiqués. Donc, on peut accompagner autant là, dans des plaintes aux normes du travail, de la version des faits à la médiation, juste aussi dans des enjeux de sensibilisation. T'sais, on essaie justement de sortir dans les médias quand il y a besoin sur des questions d'équité, sur des questions de droits du travail. Et on fait des animations un peu partout aussi, dépendamment des besoins en Estrie.
D'ailleurs, ce qui a fait que t'as passé aux nouvelles dernièrement, c'est justement le fameux problème de la CNSST.
Oui, les délais, les fameux délais.
Et ça, c'est épouvantable. Bon, hein, je pense que là, c'est, quand on parle d'appauvrissement, là, ouais. ça aide pas. Et puis, ben, peut-être nous rappeler aussi, Rosalie, ce que fait cette magnifique table-là.
Oui, bien en fait, nous, on est une table de lutte contre la pauvreté. Donc, on a un regroupement d'organismes communautaires. Puis, on a un travail là, assez général de lutte contre la pauvreté. Donc, on fait un travail d'analyse politique et de sensibilisation et de mobilisation sur toutes les très nombreuses et générales questions qui touchent à la pauvreté dans la région de l'Estrie.
Alors, il y a aussi une coalition actuellement qui lutte contre les pauvres, si vous la connaissez. Il cherche un chef ou une chef, là, cette coalition-là. Justement, votre invitation aujourd'hui provient de... Il y a une semaine, on était assises au 187 Laurier, d'ailleurs, qui est un endroit qui est devenu mythique aussi pour plusieurs. Et on s'est penché sur une question qui tue.
Oui, absolument. La question du revenu viable.
Oui.
Et du salaire minimum.
Aussi. Et ce qui fait que vous travaillez ensemble sur ça, parce que justement, vous avez des affinités dans vos revendications.
Oui, absolument. En fait, Illusion Emploi puis la TACA, on travaille là, en fait, à chaque année ensemble sur la question du salaire minimum. Puis pourquoi on en parle présentement? À chaque année, il y a une hausse du salaire minimum au 1er mai.
Oui,
mais elle est toujours annoncée au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc, comme nous sommes en janvier, on s'attend là éminemment, idéalement, à avoir des nouvelles là, concernant la hausse du salaire minimum à laquelle les travailleurs travailleuses vont avoir droit cette année là.
Et hausse qui est toujours, évidemment, Nelly...
très décevante.
Un peu comme la hausse des loyers là, qui est sortie cette semaine, un peu. Parce qu'effectivement, quand ça sort, le gouvernement annonce ça comme une bonne nouvelle. Et je pense que dans les gens que tu rencontres, Nelly, autant aussi Rosalie, c'est pas la joie totale.
Non, parce que c'est sûr que nous, on voit de plus en plus de gens qui... sont soit, ben tu sais, on parle de salaire minimum, mais on s'entend qu'en bas de 20$ de l'heure, c'est, pour moi, c'est comme de très bas salaire souvent, ça a des enjeux là, sur les personnes. Puis même le revenu viable, là, c'est un peu ça nos revendications à Montréal en ce moment, est à 28$ de l'heure pour se sortir de la pauvreté. Donc, c'est sûr que les travailleurs à bas salaire en ce moment ont de la misère à arriver. Et nous, c'est la première fois qu'on voit des cas de gens qui ont justement des enjeux au travail, soit qui vivent du harcèlement ou qui ont des cas de plaintes diverses là, dans les cas où on les accompagne, qui se ramassent soit en faillite ou sur l'aide sociale parce que vraiment, quelques mois sans salaire, c'est plus possible là, d'y arriver. Puis rapidement, il y a des dettes, tu vis sur le crédit. C'est pas long là, que les comptes se vident, là, surtout avec le prix des loyers. Les loyers, c'est vraiment la grosse dépense.
Le gros morceau.
Oui, absolument.
Et puis c'est ça, puis justement, quand on parle de ce revenu viable-là, il y a beaucoup de discussions, parce que, évidemment, là-dessus, l'autre soir, d'ailleurs, il y a eu un beau débat. Peut-être nous en parler un peu de ce débat-là qui s'est produit, là, qui est intéressant.
Oui, bien, en fait, c'est toujours ça. Hein? On a toujours cette question-là, à combien devrait être le salaire minimum? Puis bon, vous le disiez tantôt, on a vraiment un très gros... on n'est pas en accord avec habituellement nos gouvernements qui ont tendance à garder un salaire minimum absurde, en fait, qui garde vraiment les travailleurs, travailleuses dans la pauvreté. Mais nous, notre grande question, c'est combien est-ce qu'un travailleur ou une travailleuse devrait être payé pour qu'on considère qu'elle soit sortie de la pauvreté? Donc, c'est un peu toujours ça la question qu'on a à répondre. Et, en fait, la réponse, c'est que présentement, pour sortir de la pauvreté, une personne qui travaille à temps plein devrait être payée 28$ de l'heure.
OK. Alors, on n'est pas tout à fait là.
On n'est pas tout à fait là. Et il y a beaucoup de personnes qui sont payées en dessous de 28$ de l'heure. Et là, 28$ de l'heure, ça peut sembler gros. Mais en fait, quand on regarde concrètement ce que ça veut dire d'être sorti de la pauvreté, en fait, ce qu'on considère, c'est les conditions de vie des personnes. Mm-hmm. Et donc, pour nous, une personne qui travaille à temps plein au Québec, ce n'est pas acceptable que cette personne-là en soit réduite à vivre dans un appartement en colocation, si c'est pas son choix, à rester dans une relation amoureuse qui fonctionne plus parce qu'elle est pas capable de se trouver un autre logement.
Et justement, là, on parle de ça. Aujourd'hui, il y a une action 16h30, justement, pour souligner les féminicides qui proviennent justement du fait que des femmes doivent vivre avec un conjoint violent parce que, justement, elles ne peuvent pas partir en appartement à leur propre compte.
Non, absolument pas. Puis c'est de plus en plus difficile là, avec les hausses successives des loyers des dernières années. Les loyers qui sont disponibles présentement sur le marché ont des prix qui sont beaucoup plus élevés habituellement que ce que des gens payent présentement quand ça fait plusieurs années qu'ils sont dans leur logement. Mm-hmm. Puis pour nous, c'est inacceptable en fait qu'on ait des personnes desquelles on exige jusqu'à 40 heures par semaine de travail salarié et qu'on accepte que ces personnes-là travaillent et vivent dans des conditions qui sont pas optimales, là. Qui sont obligés de couper dans l'épicerie, qui sont coincés dans des logements qui sont inadéquats. Pour nous, c'est vraiment inacceptable.
Et sûrement aussi, Nelly, beaucoup de gens viennent t'en parler aussi de ça. Vous recevez des gens, vous rencontrer du monde un peu partout en Estrie.
Oui, puis pour nous aussi, c'est sûr qu'on a beaucoup de travailleurs qui sont soit en arrêt maladie ou sur le chômage. Et c'est pas normal
que, tu sais, quand on soit sur le chômage, qui dure, on s'entend, quelques semaines, voire mois, là, ça dépend de combien d'heures on a fait dans l'année, mais après, les gens ont rien. Et ça, pour comprendre, là, tout le monde vont avoir un jour besoin de prendre un arrêt maladie, que ce soit parce qu'ils se blessent, parce qu'ils ont une maladie ou une dépression, peu importe. Ça arrive à tout le monde, un épuisement professionnel, etc. Et c'est pas normal qu'il y ait des gens que, quand ça leur arrive, après le nombre de semaines de chômage, s'ils sont pas rétablis, ben ils ont plus rien qui rentre. Ils ont absolument pas... Tu sais, quand ils ont pas d'assurance, par exemple, ça, on en voit de plus en plus, tu sais, des gens qui prennent un arrêt, puis une fois que les semaines de chômage sont terminées, c'est quoi les options? Il y en a pas. On sait plus comment les aider ou les référer, à part dans les banques alimentaires. Là.
Et souvent aussi, le même chômage, parfois, qu'ils ont attendu le premier chèque quelques semaines.
Absolument, c'est ça.
Ça aussi, là, c'est un non-sens. Il y a des gens, je me souviens, moi, qui m'appelaient quand j'étais à l'association galère, une propriétaire me mettre dehors parce que je ne peux pas payer mon loyer. Ça fait six semaines que j'attends mon chômage.
Puis il y en a que l'employeur va pas vouloir donner le relevé d'emploi alors que c'est une obligation légale, mais
aussi
que l'employé doit courir après son relevé d'emploi.
T'imagines
puis
pas,
le chômage
là.
Attend après ça. Puis là, ta demande n'est pas encore finalisée. Là. On attend juste le relevé d'emploi. Puis c'est la première étape. Puis même ça peut prendre des semaines quand l'employeur est de mauvaise foi. Donc il y a une grande précarité, puis on se rend pas compte à quel point c'est un privilège, tu sais, pour les gens qui ont des assurances, qui sont syndiqués. Tu sais, c'est la majorité des gens sont pas syndiqués. Là, on a 60% de la population au Québec qui est pas syndiquée. Mm-hmm. Ça amène des gros enjeux là pour autant la précarité financière que le coussin, le filet que tu as quand il t'arrive quelque chose.
Effectivement. Puis ce qui fait aussi que la pauvreté s'installe de plus en plus, les banques alimentaires, tout ça. Il n'y avait pas une loi qui avait été passée aux Alliés en 2002.
Oui, ça fait quelques années quand même.
Vous étiez bien jeune. Là. Moi, j'étais déjà vieux. Là. Mais qui, unanimement...
Oui, absolument. L'Assemblée nationale avait voté à l'unanimité pour une loi qui, en fait, visait à amener le Québec dans les nations où il y avait le moins de pauvreté.
Et
depuis ce temps...
Ça s'est perdu en chemin quelque part. Hein?
Oui, absolument. En fait, là, principalement dans les dernières années, on voit vraiment une augmentation de la détresse, une augmentation de la précarité. Là, les gens se retrouvent vraiment dans l'incapacité de payer leur loyer, doivent couper dans des dépenses qui sont pas compressibles. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui perdent leur logement, il y a des gens qui vivent dans leur char. Et puis ça, c'est vraiment dramatique. Puis il y a de plus en plus de travailleurs, travailleuses qui se retrouvent à devoir recourir à des banques alimentaires.
C'est ça. Et aussi souvent qu'ils doivent cumuler parfois aussi deux emplois.
Oui, plusieurs emplois. Puis juste pour donner une statistique choc, là, parce que ça reste qu'on parle des banques alimentaires, selon le bilan fin de 2024, le nombre de demandes d'aide auprès des banques alimentaires a augmenté de 55% par rapport à l'année 2021. Puis par mois au Québec, ça représente à peu près 2,9 millions de personnes. Donc, tu sais, on parle de banques alimentaires. C'est pas normal là que des travailleurs qui cumulent plusieurs emplois doivent aller dans des banques alimentaires. Puis on voit avec les chiffres que c'est vraiment, vraiment problématique le fait que ça augmente de plus de la moitié de la demande de banques alimentaires. Les banques alimentaires ne fournissent plus. On se rappelle que ça, c'était une mesure qui était pas censée durer. Là. C'était pas sur la durée. C'était une mesure qui était censée juste régler un problème sur le coup, pas pour régler le problème de la pauvreté. Là.
C'est vraiment épouvantable comme tel. Puis justement, quand on parle de cette loi-là de 2002,
qui fait que,
je pense qu'ils n'ont pas compris, il ne fallait pas augmenter le nombre de personnes qui sont pauvres. Il fallait le réduire. ils ont mal compris
Oui, absolument. Non, puis, tu sais, je pense que ce qu'il faut aussi renoter, c'est que il y a quand même une très forte réaction de la part des employeurs à l'augmentation du salaire minimum.
Oui, ils n'y arriveront pas. Puis,
exactement.
Comme les propriétaires, justement, qui se lamentent que l'augmentation du loyer n'est pas assez forte. Là.
Oui, absolument. Alors que ce qu'on voit, en fait, c'est que les gens les plus pauvres ont vu leurs revenus et leurs avoirs diminuer dans les dernières années. Alors que les gens qui sont les plus en moyen ont vu leurs revenus augmenter très, très rapidement. Dans les 4 dernières années, on parle de 20% d'augmentation du revenu des 10% les plus riches. Donc, ce qu'on voit majoritairement, c'est que la richesse se concentre entre les mains des gens qui sont les employeurs et que les poches des travailleurs se vident. Et donc, ça va être vraiment important dans la hausse du salaire minimum qui va être annoncée dans les prochaines semaines. On espère vraiment qu'il va y avoir un mouvement de la part de ce gouvernement-là pour augmenter le salaire minimum à une hauteur qui va être décente.
Parce que je racontais l'autre soir, justement, en 2014, l'association locataire, on rencontrait François Legault, nouveau chef du nouveau parti de la coalition Avenir Québec, et comme précédemment, l'ADQ, de celui qu'on sentait tout à l'heure, de Mario, eux autres, ils disaient, bon, l'ADQ disait, pas besoin de logement social, tout le monde va avoir un job. Mais quand on a rencontré là, Legault, lui, il a renchéri en disant, oui, ben, pas de problème, on continue, on va faire, tout le monde va avoir 25, 30, 40 piastres de l'heure. C'est lui qui avait dit ça, là. Puis Normand pourrait le confirmer, puis Isabelle, là, qui était là à ce moment-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein.
Non,
on est loin de ça, là. Puis là, on parle de 2014, on parlait de 40 piastres en 2014.
Oui, absolument. On a toujours, la CAQ a beaucoup ce discours-là de vouloir augmenter le salaire moyen du Québec. Hein. Mais le salaire moyen du Québec, nos gouvernements ont tendance à vouloir l'augmenter en augmentant les gens qui sont en haut. Oui. Une moyenne, ça s'augmente de deux façons. On peut augmenter les revenus des gens qui sont au-dessus de la moyenne ou on peut augmenter les revenus des gens qui sont en dessous de la moyenne. Mmh. Et c'est malheureusement trop souvent les gens qui sont en dessous de la moyenne, les gens qui sont en bas de l'échelle salariale, qui vont se retrouver complètement laissés de côté. Là, on a eu des hausses faméliques de salaire minimum dans les dernières années, beaucoup moins élevées que les hausses à l'épicerie, beaucoup moins élevées que les hausses de loyer, ce qui fait en sorte que les travailleurs travailleuses sont en moins bonne posture aujourd'hui que ce qui était il y a 4 ans.
Et on disait que les PDG, justement, les grandes compagnies, dès le début de l'année, avaient déjà fait ouais. Un profit énorme. Fait que c'est...
Puis il y a des mythes aussi hein, qui entourent le salaire minimum. On parlait justement de la réaction des PME, puis de toujours le conseil du patronat qui nous dit que le système va s'écrouler là, si on augmente le salaire minimum de façon trop rapide. On a l'idée, là, puis ça c'est un mythe, mais que l'augmentation, une grande augmentation du salaire minimum amènerait plus de chômage, moins d'entreprises, plus d'inflation. Alors qu'en réalité, ça a été démontré dans plusieurs pays, mais une augmentation importante du salaire minimum, ça amène moins de pauvreté, ça engendre une meilleure rétention du personnel et plus de productivité chez les employés. Donc, tu sais, à un moment donné, le discours alarmiste, là, où c'est encore aux travailleurs à bas salaire à serrer la ceinture parce que pour les pauvres PME et pour le bien de l'économie québécoise, on devrait accepter, là, comme si on devait accepter des salaires carrément indécents, là, il faut arrêter avec ce discours-là parce que c'est pas en haut encore, là, avec les ultra-riches et les milliardaires qu'il faut faire des pauses d'impôts, mais il faut redonner à ceux, c'est ça, qui sont plus en bas de la pyramide, comme on disait, là.
Ouais, effectivement.
Et puis, c'est ça, donc, je sais qu'actuellement aussi, bon, d'accord, avec aussi le niveau provincial, il y a tout un manifeste, justement, pour cette lutte à la pauvreté. Il y a dernièrement, vous êtes réunis à Magog.
Oui, absolument.
Puis je pense qu'il y a une activité prochainement aussi à Victor...
À Val-des-Sources.
Val-des-Sources, oui.
Oui, exactement. On va le 26 février, en fait, on monte à Val-des-Sources pour encore une belle journée là, de discussion autour de ces belles revendications-là, dont la revendication d'avoir un salaire minimum qui a du bon sens au Québec. Donc, ça va être une super journée. Et si jamais il y a des gens qui ont envie d'être là, ben il s'agit là, d'aller sur notre page Facebook de la Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie et vous allez pouvoir trouver toutes les infos. Là.
Et surtout qu'il y a des élections à l'automne. J'ai l'impression qu'il va y avoir des petits coucous qui vont être faits aux candidats et candidates. Là.
Oui, absolument.
Puis tu sais, on parle du salaire minimum, mais... En ce moment, en plus d'avoir un salaire minimum carrément indécent, on coupe dans le filet social beaucoup là, dans des programmes qui viennent directement affecter les travailleurs, travailleuses. Tu sais, justement, tu parlais de l'article qui est sorti récemment, là, au début de semaine. Mais tu sais, nous, on accompagne des travailleurs qui sont pas syndiqués, qui veulent défendre leurs droits. Et on a de plus en plus de difficultés à les accompagner, ces travailleurs-là, parce que, ben les délais qui explosent, là, on parle de délais de 3 fois plus longs à la CNSST, près d'un appel sur 3 qui tombe dans les limbes, et des informations inexactes sont régulièrement transmises aux travailleurs. Donc, c'est sûr que ça, c'est un exemple avec la CNSST où, en plus, on n'a plus de bureau en Estrie. Là, on a, c'est tout en ligne. Donc, il y a un enjeu de fracture numérique en plus pour défendre les droits. Mais je pense que, tu sais, on le voit dans plusieurs secteurs à l'aide sociale, autant à Service Canada que là, c'est vrai que, bon, c'est des paliers différents. Là, on a provincial, fédéral, mais ça reste qu'il y a beaucoup de coupures.
Au TAL.
Au TAL.
Oui, parce que, justement, le président même du syndicat disait ben, que ses employés n'avaient pas de formation, fait qu'ils répondent à peu près n'importe quoi.
Ben exactement. Ça, tu sais, il y a en plus des coupures dans le filet social pour les gens qui sont déjà à bas salaire puis qui, des fois, essaient de se battre pour avoir des droits, soit l'employeur n'a pas voulu payer ou verser des montants, ou tu sais, des fois, il y a de l'abus aussi comme ça, puis les gens ont de la misère à défendre leurs droits. Fait que, tu sais, là, c'est comme des coupures de partout, puis c'est des attaques, en fait, là, qu'on reçoit. Nous, on le voit en tout cas comme des attaques, autant au filet social qu'au niveau du salaire minimum pour les travailleurs. C'est comme difficile de joindre les deux bouts et de pouvoir défendre ses droits. Fait que c'est comme on perd sur toute la ligne, là.
Et la table d'action, vraiment, vous avez plusieurs partenaires aussi, parce que de plus en plus, vous avez plusieurs groupes aussi qui travaillent sur ce sujet-là, là, comme tel.
Oui, absolument. Ben en fait, tu sais, on le voit là beaucoup chez les travailleurs travailleuses, mais la situation est pas juste critique pour les travailleurs travailleuses à bas salaire, elle est critique de plus en plus pour les personnes aînées aussi. Personnes aînées qui se sont beaucoup appauvries dans les dernières années. Oui. On a encore des gens qui sont à l'aide sociale qui ont même pas 900 $ par mois là pour être capable de joindre les deux bouts. C'est physiquement impossible pour ces gens-là d'arriver.
Mais l'augmentation de 2% qu'il y a eu là.
Oui, absolument.
Et les députés, autres, ils ont voté un 30 000 de plus.
C'est logique.
Hein?
C'est logique, mais c'était sarcastique. Là,
non, mais c'est ça que je dis. Oui, c'est ça. T'sais, il reste que ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Je me dis, pourquoi faire ça? Puis justement, cette argumentation-là, c'est comme ridicule.
Oui, absolument. Puis tu sais, je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est en droit de s'attendre à mieux que ça. C'est pas normal qu'on demande à des gens qui ont déjà de la misère d'arriver, de couper encore plus dans des choses qui sont essentielles. C'est pas normal qu'on ait des histoires d'horreur qui arrivent dans nos bureaux à tous les jours, de gens qui sont plus capables de se payer leur médication, des gens qui ont plus rien à manger dans leur frigo à partir du 15 du mois. C'est pas normal qu'on ait autant de gens qui en sont réduits à vivre en situation d'itinérance, alors que les profits sont faramineux. La richesse, elle est là. On a souvent cette idée-là comme quoi l'environnement économique, c'est difficile pour tout le monde, il faut serrer la ceinture, mais c'est pas ça la réalité. Puis je pense que c'est important que les gens le comprennent bien. On a ce droit-là d'exiger d'avoir des conditions de vie qui ont de l'allure.
On parlait aussi dernièrement, justement le 7 février, il y a une action là, qui va être faite demain, je sais que il y a une réunion avec le comité racisme et discrimination sur le PEC. Ça l'affecte aussi des travailleurs et travailleuses comme tels qui avaient un emploi?
Ben en fait, je parle, tu sais, quand je parlais de filet social, là, l'immigration, c'est un bon exemple. Là. On le voit dans le discours politique, c'est le bouc émissaire, là, les immigrants, c'est leur faute. S'il y a une crise du logement, mais c'est leur faute. Toutes les crises sociales, c'est leur faute.
Les Canadiens ont perdu hier, ça. Leur faute.
Ben c'est ça, tu sais. mais c'est un discours hyper problématique parce que, ben premièrement, leur contribution est complètement ignorée dans ce discours-là, alors qu'on a besoin de ces travailleurs-là. C'est pas pour rien qu'on les fait venir dans des travails où on n'est pas capable de recruter ici de la main-d'œuvre, mais c'est sûr que le PEC, qui est le programme de l'expérience québécoise, qui était la seule porte d'entrée pour les travailleurs étrangers temporaires que nous, on accompagne, là, vers la résidente permanente, là, c'est aboli. Ça a été aboli sans préavis, comme ça. À l'automne, on parlait aussi de couper l'aide sociale aux demandeurs d'asile. Fait que, tu sais, il y a vraiment des attaques envers les personnes immigrantes qui sont ici pour... qui sont essentielles, en fait, là, qu'on disait que c'était nos anges gardiens durant la pandémie.
Ouais, ils ont perdu leurs ailes après
2021. C'est ça, qu'on traite comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est fâchant et qu'il faut en parler. Faut pas que ça devienne normal, en fait. Faut pas que ça devienne un discours qui est banalisé. Il faut qu'on continue à lutter pour ça parce que vraiment... c'est triste, là, vraiment.
Ouais. Spécifiquement sur la question des coupures à l'aide sociale, c'est la première fois dans l'histoire que l'aide sociale va être limitée dans le temps. C'est la première fois qu'on dit, bon, ben à un moment donné, t'as droit à l'aide sociale, puis passé un certain nombre de temps, t'as plus droit à l'aide sociale. L'aide sociale, c'est l'aide de dernier recours. Ouais. C'est la dernière affaire à laquelle t'as droit quand t'as plus droit à rien d'autre. Et donc, de couper l'aide sociale aux personnes qui sont demandeuses d'asile après 9 mois, c'est ça qui a été avancé par le gouvernement, c'est un précédent qui est incroyablement dangereux puis qui va réduire des gens qui sont déjà vulnérables à l'extrême pauvreté. À une extrême pauvreté où il n'y aura plus rien.
Parce que souvent, ces personnes-là arrivent ici, bon, parfois, ils veulent faire venir quelqu'un de leur famille, puis là, il faut qu'ils se prennent un loyer, puis évidemment... Ça prend quand il y a du logement social, ça prend un an avant d'être éligible. Puis encore là, on sait que les attentes sont énormes. Donc, la personne, déjà, essaie de travailler, se fait appauvrir comme
tel. Oui, absolument. Il y a des délais même pour avoir des permis de travail. Pour ces gens-là, d'obtenir un permis de travail, d'obtenir une place en CPE pour ses enfants, ça peut prendre plus de 9 mois. Donc, on leur donne même pas la chance d'être capable de peut-être se trouver une job avant de couper leur aide sociale. Puis une fois qu'il n'y a plus rien, là, c'est la rue qui attend ces gens-là. Mm-hmm. C'est littéralement ça, et c'est littéralement dans cette situation-là dans laquelle on va mettre beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui sont déjà demandeuses d'asile, qui ont un statut de réfugié au Québec. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une absurdité des plus complètes, là, en termes de pauvreté. On contraint vraiment des gens à vivre dans une pauvreté qui est abjecte, là.
Effectivement. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche. Peut-être juste compléter les petites activités qui s'en viennent. Je sais que à la cause de l'Iran, évidemment, il y a à l'université, cette semaine, il y a justement lundi, des personnes qui vont venir parler, justement, parce que peut-être aussi des gens qui sont des travailleurs, travailleuses ou des gens qui vivent justement cette situation de voir leur famille, là, qui sont là-bas, là, on parle de milliers de morts.
Oui, absolument.
Ça, puis bon, ce soir, on va parler, il y a ça, l'activité aussi, qui se déroule à 16h30, parce que justement, les femmes qui subissent ce féminicide à cause, justement, de l'état de pauvreté, ils doivent rester avec... Tu sais, il y a plein de situations. Puis, comme de tout à l'heure, autant les premiers invités qu'à vous autres aussi, vous êtes des personnes très inspirantes. Puis, c'est pas ça pour être fin, là. Parce que vous êtes... Parce qu'il reste que c'est tu sais, travailler dans ce domaine-là, c'est... Il faut être fait forte pour être capable de tenir le fort, hein.
Oui, bien, en même temps, on gagne beaucoup aussi de travailler. Les petites victoires, là, on les célèbre très fort parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Fait que quand on peut avoir des petites victoires pour les personnes qui, soit ont été, pour nous, au niveau du travail, été exploitées, qui ont vécu des abus, puis qu'on réussit à au moins avoir. Que les personnes réussissent à avoir un petit sentiment de justice à travers le processus, puis de pouvoir passer à autre chose au final, là, ça, il y a une petite victoire à chaque fois quand ça on réussit à avoir... ouais.
Puis la mobilisation aussi, je vois aussi les gens que il y a quelques jours, là, à Magog, tout ça, puis d'autres, il y a la grève sociale qui s'en vient, donc il y a une mobilisation de plus en plus grande qu'on appelle là,
un
des 47 aigus, là.
Oui. Ben, je pense, en fait, que les gens sont en train de se rendre compte qu'on peut plus être immobile sur le plan politique, là. On est dans une situation de crise, tu sais. Les gens ont de plus en plus de misère à arriver. Les gens vivent des situations qui ont aucun bon sens. Puis je pense qu'on est en train de réaliser, là, qu'on est un peu arrivé au bout de ça, puis qu'il est le temps qu'on se lève, il est temps qu'on se réveille, puis il est temps qu'on lutte pour nos conditions de vie, là.
Nelly, Rosalie, là, ça sonne bien, là. Ça fait de la poésie comme telle. Merci de votre éclairage. Le micro est toujours ouvert pour vous autres. On rappelle que l'émission sera aussi demain sur notre site Internet, donc pour réécouter ou à mettre sur vos réseaux pour justement entendre aujourd'hui cette émission de personnes engagées et puis aussi de situations, on parlait tout à l'heure, du racisme comme tel, puis de rappeler le mois de février, mois off de l'histoire des Noirs, puis aussi de voir vos engagements comme tel, ben, je pense que c'est encourageant de savoir qu'il y a du monde qui se batte, puis la relève aussi, que, comme vous autres. Fait que merci.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup, Alain.
Alors, on vous laisse la programmation musicale de CFLX, bien sûr, puis on vous revient, bien sûr. Parce qu'il y a plein de sujets toujours, jeudi prochain dès midi, pour une autre émission, Logement, un droit.
Il est midi.
58 minutes.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
De retour en studio après une saison très relevée, le magazine Art d'œuvre poursuit sa reconnaissance et sa promotion des arts et de la culture à Sherbrooke, en Estrie, au Québec. Des entrevues, des reportages, des clins d'œil, des chroniques et des prestations, de tout pour garnir le menu et la table. Les samedis de 13h à 15h et les mardis en rediffusion de 16h à 18h. Parce qu'on vous aime, qui vient dîner avec moi, avec nous?
Grande nouveauté sur les ondes de Saint-Félix. Du dimanche au jeudi, de minuit à 6h, Saint-Onisile 95.5 pour le monde du rock la nuit. Du classique rock au pop, en passant par le folk et le métal, tout y passe pour vous tenir réveillés. Du dimanche au jeudi, de minuit à 6h, c'est le monde du rock la nuit à Saint-Félix. Votre rendez-vous nocturne en Estrie.
Conditions actuelles